Vous écoutez On lit pour vous.
Marcel Gauvreau ne s'est jamais laissé limiter par son handicap. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. À l'époque où Marcel Gauvreau s'asseyait dans son premier fauteuil roulant, Mémo Québec avait seulement 6 ans. Le petit Marcel, lui, en avait 4. Nous étions au début des années 1950 et la polio le paralysait jusqu'aux poumons. Après 4 mois et demi de séjour à l'hôpital, il est parvenu à bouger un index. A alors commencé une longue rééducation à l'hôpital Pasteur, poursuivie par sa mère qui lui faisait religieusement faire ses exercices tous les jours. Dans le petit village de Rivière-Rouge dans les Laurentides où Marcel a grandi, l'Annonciation à l'époque, il n'y avait qu'une seule école primaire. Marcel n'ayant pas assez de force pour être présent en classe en première année, l'institutrice venait chez lui après l'école pour lui donner 1 heure de cours. En 3e année, enfin, son docteur lui a annoncé qu'il était prêt pour rejoindre les bancs de l'école avec les autres enfants. Mon médecin était le docteur Gingras à Montréal. Il a joué un rôle prédominant pour moi. Pour lui, il s'agissait d'y croire. Sa mission était que les personnes à mobilité réduite soient les plus autonomes possible. Il fallait qu'elles participent au maximum de leurs capacités, se souvient Marcel. Le docteur Gingras lui demandait souvent comment se passait l'école. Ses parents, qui étaient très débrouillards, l'encourageaient et tenaient absolument à ce qu'il ait une enfance la plus normale possible, qu'il joue avec les autres, poursuive des études. Ce n'était pas toujours le cas dans d'autres familles où certains parents pensaient qu'il était préférable de laisser leurs enfants en situation de handicap chez eux au lieu de les envoyer à l'école et jouer dehors avec d'autres enfants. Il y avait toujours une place pour moi, comme gardien de but au hockey ou comme arbitre. Des adaptations faites maison. À l'époque, dans un monde où les aménagements pour fauteuils roulants n'existaient pas, son père, le boulanger du village, lui avait fabriqué une rampe pour faire sortir le fauteuil de son camion ou de sa boîte à pain, comme Marcel l'appelait, dans laquelle il n'hésitait pas à chiper des gâteaux. Le docteur Gingras nous demandait des photos pour montrer l'installation aux autres parents, explique Marcel. Dans les années 1950, Marcel ne se souvient pas d'avoir vu beaucoup de personnes en situation de handicap circuler dans la rue. Elles étaient soit dans les institutions, soit chez eux avec leurs parents. Jeune garçon, il se sentait privilégié de vivre dans un petit village. À un moment où l'influence de l'Église était encore très forte, le curé de sa paroisse s'est même retrouvé de son côté quand il a fallu qu'il garde sa place à l'école. Alors que sa classe devait monter d'un étage, il n'existait aucun système pour monter un fauteuil roulant. Après avoir essayé tant bien que mal de monter le sien à l'aide d'une poulie, il a été décidé que toute sa classe s'installerait au premier étage chaque fois que son tour viendrait de l'intégrer. Le regard des autres, un regard dur. Les obstacles n'ont jamais arrêté Marcel et sa famille. Certaines fois, cependant, à la puberté notamment, Marcel a subi certains revers, mais il s'est aussi heurté au regard des autres. Les parents avaient plus peur de moi que les filles. Il y avait un certain malaise. Les conversations étaient crues à ce moment-là. « C'est un infirme. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie ?» C'étaient des phrases que j'ai entendues plusieurs fois. À tel point que le père de sa future épouse, Thérèse, n'a rien voulu savoir de lui. On vivait ce type d'expérience dans ce temps-là. Il vient à Montréal à 16 ans pour étudier et il complète 2 fois sa 11e année compte tenu de 2 opérations subies pendant l'année scolaire. Il poursuit après ses études à HEC Montréal. Mes premiers contacts avec l'association, note de la rédaction, Mémo Québec aujourd'hui, remontent à ce moment-là. Il n'y avait pas de transport adapté en 1964. Alors, les dirigeants de l'association se sont occupés de moi. Ils me payaient le taxi pour compléter mon secondaire et par la suite aller à l'université. Ils le faisaient pour ceux qui désiraient compléter leur secondaire et aller à l'université, raconte Marcel. Les combats de l'association dans les années 1960. En même temps qu'il poursuivait ses études, Marcel dînait quelquefois à la cafétéria de la section québécoise de l'Association canadienne des paraplégiques. Il y partageait des repas avec Joe Laliberté, qui préparait alors une rencontre avec le maire Jean Drapeau pour faire adapter les 12 premières stations du métro de Montréal. Ils avaient tellement travaillé avec le colonel Ross, le premier président du conseil d'administration de l'association, et M. Ward, le directeur, sur ce dossier, mais le maire n'a rien voulu savoir. Jean Drapeau insistait en disant que ce ne serait pas prêt pour l'Expo 67. Je me souviens que M. Laliberté était très affecté par ce refus de la Ville de Montréal. L'aménagement de ces premières stations aurait permis un métro accessible au fur et à mesure de l'ajout de nouvelles stations, décrit Marcel Gauvreau. Au fil des années, l'étudiant en droit, puis l'avocat qu'il est devenu, a été de plus en plus investi auprès de l'organisme. Je me suis graduellement impliqué dans des petits projets. On mettait beaucoup l'accent sur l'accessibilité. On partait de tellement loin. Il n'y avait rien. Il fallait tout faire. Je donnais des entrevues aux journalistes. Il fallait sensibiliser, tout expliquer, et même s'ils comprenaient, la fois suivante, il fallait recommencer, surtout au début. C'est lent pour imposer des changements à la société. Raconte-t-il, en mentionnant les places de stationnement réservées pour les personnes à mobilité réduite qui n'existaient nulle part. Le début du travail sur l'accessibilité architecturale. Marcel Gauvreau s'est ainsi engagé dans un projet du gouvernement fédéral pour les étudiants intitulé « Perspective jeunesse ». Il lui fallait, pendant un été, visiter des universités de la province avec l'aide des services du bâtiment et évaluer l'accessibilité en présentant des recommandations. Nos suggestions étaient toujours réalisables et ne demandaient pas un budget trop gros. Nos conseils ont été bien suivis. Ça a ouvert des portes, explique Marcel. Pendant ce temps-là, l'association faisait des représentations gouvernementales pour s'assurer du changement du code du bâtiment, permettre l'accessibilité des édifices. Graduellement, les idées faisaient leur petit bonhomme de chemin. On y croyait beaucoup, se rappelle le militant. Tous ces changements architecturaux, Marcel Gauvreau les a vécus un par un. Les premiers stationnements réservés pour personnes en situation de handicap, les trottoirs en pente, les rampes pour accéder aux édifices, l'adaptation du domicile, du véhicule, l'amélioration des technologies et des matériaux des fauteuils roulants. Tout cela permettait plus d'autonomie, car dans les années 1960, il était rare de voir des personnes en fauteuil roulant se promener dans la rue. Citation « C'était trop difficile ». Fin de citation. Les centres commerciaux, eux, en comptaient davantage car ils étaient plus accessibles. Les mentalités ont changé petit à petit. L'avocat a aussi vécu les changements de mentalité. Avant, on le regardait d'un œil. Les gens ne savaient pas trop quoi faire. J'en ai entendu de toutes sortes. Un chauffeur de taxi, une fois, a dit « Il serait mieux mort, celui-là ». Ma femme était très choquée, se souvient-il. Marcel, pourtant, ne voyait jamais d'obstacles. Il préférait toujours trouver une façon de faire les choses et n'hésitait pas à repérer une personne assez forte qui pourrait le soulever, que ce soit à l'entrée des bâtiments ou dans le métro. Il se disait que c'était une personne de plus sensibilisée à la cause. « Je n'avais rien à perdre à demander, à essayer. Aujourd'hui, il y a plus de personnes actives qui sont en situation de handicap. Cependant, beaucoup de travail reste à faire. » Il est important de soutenir les activités et les luttes que mène Mémo Québec, comme en employabilité et en accès aux soins, affirme Marcel. Impliqué dans le dossier de la Régie des rentes. Ayant été contraint de réclamer une rente d'invalidité à 60 ans, Marcel salue le travail de recherche effectué par Jacques Dubois et le combat des personnes qui ont contesté devant le tribunal la pénalité imposée aux personnes en situation de handicap qui ont dû prendre une rente d'invalidité entre 60 ans et 65 ans. Il est devenu un allié de la cause en acceptant de donner, à la suggestion de Mémo Québec, plusieurs entrevues sur le sujet à la presse au fil des ans. Il a bien sûr été ravi à l'annonce de la suppression de la pénalité, il n'y croyait pas. Il ne prend d'ailleurs aucune avancée pour acquis. « Encore aujourd'hui, il faut pousser, tout le temps », confie-t-il. Aujourd'hui, à 78 ans, Marcel est veuf depuis 5 ans et vit seul. Il reçoit plusieurs services à domicile pour le ménage, la douche, le physio. Ses deux filles, qui sont toujours présentes dans sa vie, lui fournissent également de l'aide et du soutien. Il se considère chanceux de bénéficier des technologies actuelles comme les coussins pour éviter les plaies ou un fauteuil motorisé avec un élévateur et une bascule. Il occupe son temps en allant au musée, à l'opéra, au ballet ou à des concerts notamment, avec ses deux filles devenues avocates, elles aussi. C'était « Marcel Gauvreau ne s'est jamais laissé limiter par son handicap », un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Le 12 août, j'achète un livre québécois. Vanessa Bergeron, « Embrasser les différences ». Une entrevue réalisée par Alexandra Mignot, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Dans un été de soleil et de gravel, Vanessa Bergeron, qui nous avait notamment offert les romans pour adultes « L'art de patauger dans une tasse de thé », parue chez Urtubise, et « Les reflets dans nos miroirs », parue chez Robert Laffont, Québec, met en scène deux adolescents que tout oppose. Proche aidante de son père, Peg cumule deux emplois, tandis que Jordan semble mener une vie rêvée dans sa maison cossue. Grâce à une correspondance déclenchée par un sentiment d'injustice de Peg, ils se rapprochent et nouent une amitié. Puis, chacun découvre la réalité de l'autre, déconstruisant ainsi les idées préconçues et les apparences trompeuses. Peg et Jordan se lient d'amitié grâce à une correspondance dans une boîte aux lettres. Comment cette idée est-elle née? Étant de la génération des milléniaux, j'ai grandi avec l'échange de lettres manuscrites au quotidien, que ce soit par la poste ou encore entre amis à l'école. Je me souviens encore de cette fébrilité que je ressentais lorsqu'une enveloppe à mon nom m'attendait dans la boîte aux lettres. Il y a une énorme différence dans la manière dont on se livre lorsqu'on rédige à la main un message destiné à autrui. Le geste en soi, le temps consacré à l'écriture ainsi que l'acceptation du délai avant que notre message soit lu font preuve de notre engagement. Souvent, un plus grand degré d'intimité découle de ce type d'échange. Depuis la pandémie, certaines personnes de mon entourage ont effectué un retour au mode de vie analogique, notamment en remplaçant la messagerie instantanée par la correspondance. Cela m'a fait réaliser qu'il y a un ralentissement que je trouve profondément beau qui s'opère dans notre façon d'entrer en relation par écrit. J'ai aussi eu un coup de cœur pour la série « Dash and Lily », qui m'a donné envie de pondre une histoire où les personnages font connaissance ainsi. Issus de classes sociales différentes, Peg et Jordan vivent dans deux univers opposés. Qu'est-ce qui vous inspirait dans ce contraste? Avec le temps, je constate que notre tendance à s'entourer de gens issus d'une réalité socio-économique similaire à la nôtre s'accompagne aussi d'une bonne dose de jugement envers le reste du monde. C'est comme si notre sentiment d'injustice se mélangeait à une difficulté ou une incapacité à se mettre dans la peau de l'autre, créant un gouffre entre nous. Les jeunes évoluent et se forgent une identité en étant exposés à tous ces jugements, incluant ceux qu'inspirent le contraste entre la pauvreté et la richesse. On fera passer ces jugements sous le couvert de l'humour. On se sentira légitime de les nommer en raison des inégalités. On généralisera beaucoup, sans chercher à nuancer. J'avais envie d'explorer l'inconfort de plonger le petit orteil dans le bassin de l'autre, de confronter deux jeunes à ce qui se cache derrière des situations qu'ils idéalisent. La notion de privilège, les inégalités et l'injustice ne disparaissent pas pour autant, mais le jugement, lui, peut s'effriter. Vous abordez notamment l'injustice dans votre roman. Pourquoi vous semblait-il important d'écrire sur ce sujet? Absolument. Je crois fermement à l'importance de dénoncer l'injustice et de vouloir rééquilibrer les choses lorsqu'il est possible de le faire. Mais je suis aussi d'avis que notre sentiment d'injustice crée un piège, celui de la comparaison. L'aspect compétitif omniprésent dans la société et le vivre ensemble ne m'ont jamais paru compatibles. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que Peg et Jordan apprennent à tisser un lien de confiance, malgré leurs sentiments d'injustice respectifs, en surmontant cette embûche bien réelle. Une fois qu'ils créent des liens, Peg et Jordan s'épanouissent davantage. Diriez-vous que l'amitié aide les personnages à être eux-mêmes? L'amitié est une drôle de bébite. Elle démarre souvent avec un mélange contradictoire d'authenticité et de retenue. Notre besoin d'appartenance et de connexion alimente notre peur du rejet, ce qui nous pousse parfois à masquer notre identité. Comme si nous tenions à imbriquer nos morceaux les uns dans les autres afin de former un casse-tête parfait. Le fait que Peg et Jordan soient aussi différents leur accorde une liberté additionnelle. Ils n'essaient même pas de jouer au jeu du miroir, de prétendre être comme l'autre. Je pense que cet aspect leur permet plus rapidement d'être eux-mêmes. Comment la période de l'adolescence a-t-elle été un terreau fertile pour l'écriture de cette histoire? À l'adolescence, nous nageons constamment dans l'essai-erreur, par la force des choses. Il n'y a pas vraiment d'autre chemin pour découvrir qui nous sommes, qui nous souhaitons devenir. C'est aussi un moment de la vie où on se sent facilement incompris ou sous-estimé par notre entourage. Qui dit moment de transition dit terreau fertile pour la création. Quand rien ne change, rien de palpitant ne peut se produire. Dans une histoire se déroulant à l'âge adulte, il nous faut à tout prix un élément déclencheur, un incident venu bousculer une vie paisible. À l'adolescence, nul besoin de chercher ces éléments, car ils sont partout à l'intérieur de nous, toujours en train de remuer. Dans votre album « Et ça, ça sert à quoi ?» paru chez Craig Boom, Loulou Curieuse pose plein de questions et les réponses inventées s'avèrent plus magiques que les vraies. Selon vous, le pouvoir de l'imaginaire permet-il de transcender la réalité ? Non seulement nous permet-il de transcender la réalité, mais l'imaginaire nous nourrit d'une manière hautement sous-estimée. De plus en plus, on cherche à enseigner, à éduquer, à toujours ajouter une dimension pédagogique à la littérature jeunesse. Qu'en est-il de notre besoin de créer? Que fait-on des possibilités infinies de l'imagination lorsqu'on ne la confine pas à des attentes de performance et de productivité? Tient-on vraiment à enseigner aux enfants que seuls les domaines scientifiques, les faits véridiques et le savoir comptent dans leur apprentissage de la vie? L'être humain a profondément besoin de créer, et je suis d'avis que notre monde étouffe ce besoin depuis trop longtemps. Vous travaillez comme intervenante et agente de prévention pour un centre d'aide. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers l'écriture? Que représente l'écriture pour vous? En travaillant pour un organisme communautaire féministe, j'ai la chance d'effectuer un métier que j'adore et qui soit parfaitement aligné avec mes valeurs. Je passe mes journées à animer des ateliers de prévention dans les écoles ou encore à accompagner des personnes victimes de violences sexuelles. Ce qui signifie que je passe la grande majorité de mon temps à parler, à écouter et à interagir avec les autres. Une fois de retour à la maison, surtout en tant que personne vivant avec l'hypersensibilité sensorielle, mon besoin de solitude et de ressourcement est immense. L'écriture m'offre l'échappatoire idéal, un espace sacré pour m'évader, épurer mon esprit et prendre du temps pour moi. J'ai toujours entretenu des projets artistiques en parallèle à mon emploi principal. Avec l'écriture, j'ai le sentiment d'avoir enfin trouvé l'équilibre auquel j'aspirais. C'était, le 12 août, j'achète un livre québécois, Vanessa Bergeron, Embrasser les différences, une entrevue réalisée par Alexandra Mignot, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
La marche nordique, c'est bénéfique. Un texte d'Anne-Marie Tremblay paru le 17 juin 2026 dans Bel Âge. Le simple fait de se promener avec des bâtons rendrait l'exercice encore plus complet, plus dynamique et plus sécuritaire. En prime, c'est une façon efficace de s'activer tout en profitant du plein air, été comme hiver. On en fait la preuve. C'est au détour de la pandémie que Madeleine Trudeau, 74 ans, a découvert la marche nordique. Plusieurs fois par semaine, elle sillonnait les rues de son quartier avec une de ses amies. À un moment donné, nous avons eu envie de changer de décor. Immédiatement, elle a eu la piqûre pour cet exercice qu'elle pratique maintenant deux fois par semaine, beau temps, mauvais temps. Depuis, il n'y a plus de saison moche. Et cela me motive à rester active lorsque les vélos et les skis sont rangés. La marche nordique tire d'ailleurs son origine du désir des skieurs de fond finlandais de se maintenir en forme, même en été, explique Anne-Marie Auclair, entraîneur certifié et propriétaire de Marche Nordique AMA. Cette entreprise a été la première à offrir des cours structurés de marche nordique au Québec en 2004. La technique de la marche nordique ressemble d'ailleurs à celle du ski de fond. Plutôt que d'utiliser ses bâtons comme une traction, comme pour une montée en randonnée par exemple, ils servent à se propulser, explique l'entraîneur. Lors des initiations, je demande d'abord aux participants de laisser les bâtons traîner derrière eux en marchant. Il devient alors plus naturel de piquer le bâton à 45 degrés pour pousser. Le bâton n'est donc jamais devant. La dragonne, une courroie fixée à la poignée, permet aussi de relâcher le bâton afin de pousser et de le rattraper naturellement au mouvement suivant. C'est ainsi que la propulsion s'installe. Le corps en mouvement. L'utilisation de bâtons permettrait de solliciter jusqu'à 90 % des muscles du corps, puisque les bras, les épaules et le haut du tronc travaillent aussi, ce qui rend cet exercice plus complet que la marche. Comme la cage thoracique s'ouvre, on respire mieux et la posture s'améliore, ajoute Anne-Marie Auclair. Chez les participants, on voit vraiment une amélioration de la vitalité et de la forme physique. La marche nordique renforce aussi la ceinture abdominale, le dos ainsi que les pectoraux. La dépense énergétique est telle qu'une heure de marche nordique permettrait de brûler jusqu'à 500 calories, soit l'équivalent de 60 minutes de jogging selon l'entraîneur. Résultat, des effets positifs sur le cardio et les capacités pulmonaires, sans choc sur ses articulations. Découvrez aussi la marche afghane. C'est d'ailleurs l'un des bénéfices que Madeleine Trudeau a remarqué avec le temps. À force de pratiquer, elle ressent moins de douleurs aux genoux, ce qui l'avantage quand elle va en Suisse pour dévaler les pentes. À noter que ce sport a aussi des effets positifs sur l'humeur puisque cet exercice stimule la production d'endorphines et de dopamine, deux hormones liées au bonheur. Membre d'un club de marche, Madeleine Trudeau apprécie également l'esprit de groupe qui y règne. C'est une occasion de socialiser et tout le monde est vraiment bienveillant les uns avec les autres. Un sport adapté à tous. En octobre 2022, la septuagénaire a participé au marathon de la Chine pour un 10 km de marche nordique. Mon objectif était tout simplement de réussir à parcourir cette distance et j'y suis arrivée en moins de 2 heures. Cela dit, nul besoin d'être en top forme pour pratiquer ce sport. Cet exercice est adapté à tous, indique Anne-Marie Auclair. En Europe, beaucoup de physiothérapeutes utilisent cette activité comme moyen de réadaptation après une opération, explique-t-elle. En fait, c'est comme si on avait 2 pattes de plus. On est plus solide et cela nous enlève un poids. D'ailleurs, c'est un sport particulièrement apprécié des personnes de plus de 50 ans, les retraités composant la majorité des participants aux activités de marche nordique AMA. On mise vraiment plus sur le plaisir que sur la performance, puisque chacun y va à son rythme, souligne-t-elle. Les plus rapides reviennent vers le groupe quand ils s'éloignent. De plus, l'organisation offre aussi des séances d'entraînement où la marche est entrecoupée d'exercices. On peut toujours adapter les mouvements à sa condition. Par exemple, je ne fais pas de jumping jack, alors les entraîneurs me proposent autre chose, témoigne Mme Trudeau. L'important, c'est de bouger. Anne-Marie Auclair recommande de commencer chaque séance par un échauffement. C'est super important pour activer la circulation sanguine d'abord, mais aussi la synovie qui sert d'huile. Quand on ne bouge pas, ce liquide s'épaissit comme de la gélatine. Lorsqu'on s'active, il se liquéfie et lubrifie les articulations. Équipement 101. Il existe deux types de bâtons pour pratiquer la marche nordique. Les modèles monobrins sont fixes et ne s'ajustent pas. Le coude doit être à 90 degrés quand on le tient, explique Anne-Marie Auclair. À l'inverse, les bâtons télescopiques sont ajustables. Plus chers, ils peuvent être adaptés selon l'activité. Par exemple, en randonnée où la hauteur requise varie. Pour le reste, une bonne paire de chaussures ou de bottes de randonnée, des crampons l'hiver, des vêtements confortables et une ceinture ou une veste d'hydratation suffisent. De plus, il est possible de pratiquer la marche nordique sur tous les terrains, même en ville, soutient l'entraîneur. Il suffit de mettre l'embout de caoutchouc sur la pointe de chaque bâton. Cela permet d'absorber le choc à la place des épaules et des coudes. Bref, pas étonnant que la marche nordique gagne de plus en plus d'adeptes. Pour moi, c'est presque une forme de méditation, explique Madeleine Trudeau. D'ailleurs, ce n'est pas rare de croiser des animaux comme des chevreuils. C'est donc la formule parfaite puisqu'elle combine le côté social, physique et le contact avec la nature. Envie d'essayer? Plusieurs clubs de marche nordique existent à travers le Québec et offrent généralement des séances d'initiation à faible coût. C'est le cas de Marche nordique AMA qui propose des activités à Terrebonne, Mascouche et Mirabel. On peut aussi se tourner vers Marche nordique oxygène du côté de Pointe-Claire et sur le Mont-Royal ou encore Hop Marche nordique dans la région de Québec. C'était « La marche nordique, c'est bénéfique », un texte d'Anne-Marie Tremblay paru le 17 juin 2026 dans « Bel âge ».